Maturité professionnelle 2025, compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'examen de compréhension auditive. Dialogue 1. Vous entendrez l'enregistrement deux fois. Après la première écoute, vous aurez 1 minute 30 pour commencer de répondre aux questions. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. Vous avez maintenant 1 minute pour lire les questions de l'exercice A1. Première écoute. Bonjour Barbara Studer, vous êtes neuroscientifique. Vous êtes d'avis que les adultes devraient jouer plus souvent. Expliquez-nous pourquoi.
En jouant à des jeux de société, nous oublions nos soucis quotidiens. Nous nous sentons connectés aux autres et nous rions ensemble. Tout cela réduit le stress et a un effet valorisant. De plus, des études ont montré que les personnes qui jouent gardent plus longtemps leurs capacités intellectuelles et sont plus heureuses.
Que se passe-t-il dans le corps lorsque l'on joue?
Quand on joue à des jeux comme Uno ou Tabou, il favorise un sentiment de communauté et de joie. Le jeu libère les hormones du bonheur comme la dopamine et renforce le système immunitaire. En plus, le rire permet de stimuler la circulation sanguine. C'est aussi bon qu'un entraînement sportif.
En quoi les jeux pour enfants sont-ils différents des jeux pour adultes?
Les enfants jouent surtout à des jeux sans contraintes et sans règles. Ils font des expériences sensorielles et inventent des jeux de rôle. De cette manière, ils apprennent énormément de choses. Des études ont même montré que le fait de jouer souvent pendant l'enfance conduit à une meilleure réussite scolaire. Mais il va de soi que les enfants retirent également des bénéfices en jouant à des jeux de société et des jeux de cartes. Ils apprennent à accepter les règles, à jouer équitablement, à perdre, à gagner, à réguler des émotions comme la frustration. C'est important car cela favorise le développement cognitif et la pensée logique.
Cette forme de jeu sans contrainte propre à l'enfance existe-t-elle encore à l'âge adulte?
Bien sûr, mais sous une autre forme. Nous ne jouons plus avec des peluches ou dans un tas de sable, mais en pratiquant des activités créatives comme la musique, écrire, peindre ou encore jouer la comédie. Cela crée de nouvelles connexions entre les cellules nerveuses dans le cerveau, ce qui a un effet inestimable sur la santé.
De nos jours, les jeux vidéo sont plus populaires que les jeux de cartes et de société. Présentent-ils aussi un intérêt ?
Oui, en partie. Les bons jeux vidéo stimulent la réflexion stratégique et la créativité. Ils génèrent également une stimulation cognitive et un sentiment de bonheur. Malheureusement, et je crois qu'il faut bien insister là-dessus, de nombreuses personnes y jouent beaucoup trop longtemps. Elles ont alors un déficit de sommeil, d'activité physique et de contacts sociaux. Devenir accro aux jeux vidéo est nocif pour la santé mentale. Il est donc préférable de favoriser les interactions directes avec d'autres personnes sans pour autant renoncer aux jeux vidéo.
Barbara Studer, je vous remercie pour cette interview. Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Deuxième écoute. Bonjour Barbara Studer. Vous êtes neuroscientifique. Vous êtes d'avis que les adultes devraient jouer plus souvent. Expliquez-nous pourquoi.
En jouant à des jeux de société, nous oublions nos soucis quotidiens. Nous nous sentons connectés aux autres et nous rions ensemble. Tout cela réduit le stress et a un effet valorisant. De plus, des études ont montré que les personnes qui jouent gardent plus longtemps leurs capacités intellectuelles et sont plus heureuses.
Que se passe-t-il dans le corps lorsque l'on joue?
Quand on joue à des jeux comme Uno ou Tabou, ils favorisent un sentiment de communauté et de joie. Le jeu libère les hormones du bonheur comme la dopamine et renforce le système immunitaire. En plus, le rire permet de stimuler la circulation sanguine. C'est aussi bon qu'un entraînement sportif.
En quoi les jeux pour enfants sont-ils différents des jeux pour adultes?
Les enfants jouent surtout à des jeux sans contraintes et sans règles. Ils font des expériences sensorielles et inventent des jeux de rôle. De cette manière, ils apprennent énormément de choses. Des études ont même montré que le fait de jouer souvent pendant l'enfance conduit à une meilleure réussite scolaire. Mais il va de soi que les enfants retirent également des bénéfices en jouant à des jeux de société et des jeux de cartes. Ils apprennent à accepter les règles, à jouer équitablement, à perdre, à gagner, à réguler des émotions comme la frustration. C'est important car cela favorise le développement cognitif et la pensée logique.
Cette forme de jeu sans contrainte propre à l'enfance existe-t-elle encore à l'âge adulte?
Bien sûr, mais sous une autre forme. Nous ne jouons plus avec des peluches ou dans un tas de sable, mais en pratiquant des activités créatives comme la musique, écrire, peindre ou encore jouer la comédie. Cela crée de nouvelles connexions entre les cellules nerveuses dans le cerveau, ce qui a un effet inestimable sur la santé.
De nos jours, les jeux vidéo sont plus populaires que les jeux de cartes et de société. Présentent-ils aussi un intérêt ?
Oui, en partie. Les bons jeux vidéo stimulent la réflexion stratégique et la créativité. Ils génèrent également une stimulation cognitive et un sentiment de bonheur. Malheureusement, et je crois qu'il faut bien insister là-dessus, de nombreuses personnes y jouent beaucoup trop longtemps. Elles ont alors un déficit de sommeil, d'activité physique et de contacts sociaux. Devenir accro aux jeux vidéo est nocif pour la santé mentale. Il est donc préférable de favoriser les interactions directes avec d'autres personnes sans pour autant renoncer aux jeux vidéo.
Barbara Studer, je vous remercie pour cette interview. Vous avez une minute pour compléter vos réponses. Dialogue 2, vous entendrez l'enregistrement deux fois. Après la première écoute, vous aurez 1 minute 30 pour commencer de répondre aux questions. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. Vous avez maintenant 1 minute pour lire les questions de l'exercice A2. Première écoute. Bonjour Laura Maya. Vous êtes PDG Total Plan. La durabilité est un thème de société omniprésent. Les questions environnementales préoccupent-elles également vos clients?
Selon nos études, 80% des personnes interrogées déclarent que le critère de durabilité est important pour elles lorsqu'elles voyagent. 40% des personnes interrogées affirment y faire vraiment attention et un petit pourcentage se dit prêt à payer quelque chose pour cela. Par contre, les gens veulent continuer à faire de longs voyages en avion, même si les trajets en train sont plus demandés qu'auparavant.
Existe-t-il une option durable pour chaque voyage ou doit-on renoncer à certaines destinations?
On peut faire attention à la durabilité au cours de chaque voyage, c'est assez facile. En ce qui concerne le CO2, c'est bien sûr le trajet qui en produit le plus. Mais dans les pays de destination, on peut faire des efforts autrement. On peut choisir de loger dans un hébergement certifié durable et de se déplacer en train plutôt que de louer une voiture. Au niveau des activités, on peut choisir de partir en excursion à vélo et non en 4x4, ainsi que de privilégier le canoë ou le jet ski. Ces choix permettent également de modifier l'empreinte carbone.
Qui se soucie de ces questions?
Environ 20% des clients optent pour une contribution climatique. Ce sont les clients avec un plus gros budget voyage. Dans les agences, nos collaborateurs attirent toujours l'attention sur les offres durables et les contributions climatiques. Ainsi, ce thème est abordé plus souvent et le critère de durabilité est davantage pris en compte lors des réservations.
Y a-t-il des choses que vous ne proposez plus pour des raisons éco-responsables?
Nous ne proposons plus certaines activités avec des animaux, comme la nage avec des dauphins et des baleines en captivité, ou encore des balades à dos d'éléphant, car notre stratégie est de proposer des alternatives environnementales. Nous faisons plus de publicité pour la mobilité douce, comme les trottinettes et les vélos électriques.
Incitez-vous à effectuer des voyages durables?
Nos clients doivent avoir le choix. Nous les aidons toutefois à trouver des alternatives durables sur nos sites web, car ils comportent également une fonction filtre pour ces options. Nos chiffres de cette année montrent qu'environ 20% des hébergements réservés ont un certificat de durabilité. La proportion est en hausse et ce n'est que le début.
Laura Maya, je vous remercie pour cette interview. Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Deuxième écoute. Bonjour Laura Maya. Vous êtes PDG Total Plan. La durabilité est un thème de société omniprésent. Les questions environnementales préoccupent-elles également vos clients?
Selon nos études, 80% des personnes interrogées déclarent que le critère de durabilité est important pour elles lorsqu'elles voyagent. 40% des personnes interrogées affirment y faire vraiment attention et un petit pourcentage se dit prêt à payer quelque chose pour cela. Par contre, les gens veulent continuer à faire de longs voyages en avion, même si les trajets en train sont plus demandés qu'auparavant.
Existe-t-il une option durable pour chaque voyage ou doit-on renoncer à certaines destinations?
On peut faire attention à la durabilité au cours de chaque voyage, c'est assez facile. En ce qui concerne le CO2, c'est bien sûr le trajet qui en produit le plus. Mais dans les pays de destination, on peut faire des efforts autrement. On peut choisir de loger dans un hébergement certifié durable et de se déplacer en train plutôt que de louer une voiture. Au niveau des activités, on peut choisir de partir en excursion à vélo et non en 4x4, ainsi que de privilégier le canoë ou le jet ski. Ces choix permettent également de modifier l'empreinte carbone.
Qui se soucie de ces questions ?
Environ 20% des clients optent pour une contribution climatique. Ce sont les clients avec un plus gros budget voyage. Dans les agences, nos collaborateurs attirent toujours l'attention sur les offres durables et les contributions climatiques. Ainsi, ce thème est abordé plus souvent et le critère de durabilité est davantage pris en compte lors des réservations.
Y a-t-il des choses que vous ne proposez plus pour des raisons éco-responsables ?
Nous ne proposons plus certaines activités avec des animaux, comme la nage avec des dauphins et des baleines en captivité, ou encore des balades à dos d'éléphant, car notre stratégie est de proposer des alternatives environnementales. Nous faisons plus de publicité pour la mobilité douce, comme les trottinettes et les vélos électriques.
Incitez-vous à effectuer des voyages durables ?
Nos clients doivent avoir le choix. Nous les aidons toutefois à trouver des alternatives durables sur nos sites web, car ils comportent également une fonction filtre pour ces options. Nos chiffres de cette année montrent qu'environ 20% des hébergements réservés ont un certificat de durabilité. La proportion est en hausse et ce n'est que le début.
Laura Mayer, je vous remercie pour cette interview. Vous avez une minute pour compléter vos réponses. Fin de l'examen de compréhension auditive.